Radio Chenny, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All your little ways ever come in your parents. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. What are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You mid summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capular, you're monarchy, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h06, dites donc. Oh, mayday, mayday, mayday. Ouais, bah, ceci dit, on n'était pas mécontents qu'il termine un petit peu en retard, parce que nous-mêmes, on a préparé, on a terminé de préparer un peu juste à l'heure.
Alors, de quoi on va parler ce soir, malgré tout?
Et bien, après quelques petites brèves, on parlera de ces anciens, enfin, finalement... En tout cas, ça a duré un moment. Des essais nucléaires qui ont eu que la France.
Pardon, je modifie ta voix, mais parce qu'avant, ils ont oublié de remettre les réglages comme il fallait. Quoi.
Ah, mais là, on m'entend.
C'est
quoi.
N'importe quoi. Bah oui, avant, on dirait que tu avais une voix d'adolescent.
Okay. Ah, donc, on parlera des essais nucléaires français dans le Pacifique de 66 à 96. Il y en a eu tout un tas. Mais la France est aujourd'hui, depuis la semaine dernière, accusée de crimes contre l'humanité devant le Tribunal pénal international.
Ensuite, on parlera brièvement de la réforme des retraites et du gouvernement qui veut créer un âge pivot. Attention, ça
qu'est-ce que c'est qu'un âge pivot ? Et puis on terminera, figurez-vous, par une bonne nouvelle qui nous vient directement de ce gouvernement, voire du ministre de l'écologie, un truc un peu dingue. Fessenheim sera réellement, c'est promis, mais on dirait vraiment cette fois-ci, moi-même j'y crois, Fessenheim sera fermé en 2022. C'est-à-dire finalement dans 4 ans, quoi. C'est dingue.
Il y a Nicolas Hulot qui est venu te convertir, on dirait. Eh ben, c'est à toi. Hein. Oui, t'as mis sur le petit papier Yvan après.
Ah merde, oui. Comme si j'avais deux brèves, alors que c'est toi qui as deux.
Ah ouais, et ben vas-y, et ben c'est moi qui vais dire.
Alors,
et bien, on a le quotidien qu'on mérite. Hein. Attention, ça va être très court, hein. Mais le progrès, encore une fois.
Non, attends. Moi, j'ai pas mérité le progrès.
Tout à fait,
qu'on soit bien d'accord.
C'est vrai qu'on n'a rien fait pour mériter ça. C'est une formulation un peu galvaudée. Le progrès, en tout cas, est encore une fois pris en flagrant délit de minimisation d'agression sexuelle ou de viol. Je pense qu'il faudrait qu'on les
balance à MeToo.
Ouais, qu'on pourrait les balancer à MeToo, mais aussi qu'on les répertorie. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et ils ont titré Lyon 2. Un masseur condamné pour avoir dérapé avec une patiente. Bon, alors je vais vous épargner quand même le fait d'avoir étalé ce qui arrivait avec cette. Enfin, bref, on s'en fout en fait. De toute façon, il a été condamné. On sait que le dérapage entre guillemets n'est pas condamnable par la justice. Du coup, il y a eu au minimum agression sexuelle, voire viol. Voilà. Donc, ça fait partie de leur longue tradition d'articles un peu sur ce niveau-là. Et on les quand même connaît beaucoup moins minimisants quand il s'agit de démantèlement de réseaux de trafic de personnes de l'Est ou bien de nuisances insoutenables pour les riverains concernant un quelconque squat. Voilà. On a le progrès qui minimise d'un côté et qui en fait des caisses et qui dramatise de l'autre.
Pendant ce temps, à la frontière italienne, le squat chez Jésus, dont on a déjà parlé ici, dont on a entendu parler ailleurs, un peu partout, pas mal sur les différents sites d'information militante sur Internet. Le squat chez Jésus a été expulsé ce matin, très tôt. C'est à la police italienne, puisque du coup, c'est vrai, c'est à la frontière vraiment, mais c'est quand même côté italien. La police italienne a expulsé le lieu. Donc, c'était dans la salle paroissiale d'un bled qui s'appelle Clavière. Au moment de l'expulsion, il y avait plusieurs personnes présentes, dont 3 personnes sans papier et un certain nombre de soutiens, peut-être une quinzaine de personnes. Tout le monde a été sorti rapidement de la maison, les flics sont rentrés à l'intérieur, ils ont tout pété, ils ont vraiment cassé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et puis ils ont sorti les affaires des gens. Les 15 soutiens qui étaient à l'intérieur ont été nassés pendant plusieurs heures dans le jardin. Les 3 personnes sans papier ont été emmenées ailleurs et apparemment seraient libérées. Pour les soutiens, du coup, il y a eu contrôle d'identité. Ils ont vérifié des tonnes de fichiers, puisque les gens étaient répertoriés sur plusieurs fichiers. Mais tout le monde est reparti libre, mais accusé quand même d'occupation illégale en réunion. Alors voilà, chez Jésus, on se rappelle, hein, c'est cette salle paroissiale qui a servi de refuge. Et les migrants harcelés par la police italienne, en recherche de passer du côté français, ça c'est un peu d'un côté de la montagne qu'après il fallait traverser à pied. Alors dans les pires conditions, on a parlé, reparlé ici et tellement ailleurs aussi. Mais en tout cas, c'était un endroit qui était un peu important, non seulement pour un soutien directement matériel et qui a sans doute permis à des gens de ne pas mourir en montagne, mais aussi c'est un endroit où les gens ont pu beaucoup échanger, être ensemble, avec aussi une sorte de côté où il n'y avait pas d'un côté les personnes soutien qui étaient aidantes et les autres qui étaient juste aidées. C'était vraiment des liens de solidarité beaucoup plus compliqués que ça, beaucoup plus complexes. Voilà, ça a été un endroit chouette et qui n'existe plus depuis ce matin.
Et quand même, on souligne que le fait d'expulser ça juste au moment où il va commencer à cailler et donc à ces altitudes-là, possiblement de neiger, tout ça, ou en tout cas faire face à des grands froids, c'est un peu une mise en danger.
Et aussi, bien sûr, sur une opération comme ça, c'est les flics italiens qui ont procédé à l'expulsion, mais c'est une vraie collaboration entre les autorités françaises et les autorités italiennes. On rappelle encore une fois les autorités italiennes néo-fascistes et les autorités françaises qui sont censées être incarner toutes les valeurs opposées à ce néo-fascisme, mais alors qu'ils le montrent tellement, tellement pas dans la gestion de la réalité migratoire.
C'est une transition formidable avec ce que je vais raconter. On va voir collaborer avec des gouvernements. Comment tu les as qualifiés ?
Néo-fascistes.
ce n'est jamais vraiment un problème quand on parle de sécurité intérieure et d'immigration. Parce que si vous êtes passé à côté, et c'est pas complètement impossible, hein, mais avant-hier s'est tenu un mini G6 avec les six ministres de l'Intérieur, enfin avec six ministres de l'Intérieur européens. Et donc, il s'agit de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Suède et donc de l'Italie. Et effectivement, quand on parle quand même de ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que dans tous ces pays-là, je sais pas, personnellement, je les connais pas, on les pratique pas personnellement, mais il y a peu de chances qu'il y en ait un qui rattrape l'autre quand même. Donc ce G6 avait pour comme thème principal, hein, donc l'immigration. Et comme c'est dans l'air du temps, et ben la France a voulu montrer de quoi elle était aussi capable et elle a organisé au grand stade de Décines un exercice de simulation grandeur nature d'attaque terroristique dans le stade avec attaque au fusil d'assaut, kamikaze, prise d'otage et tout le tintouin. Voilà, bon, alors les gens qui trouveront ça un peu abusé qu'on mélange un G6 sur le thème de l'immigration et qu'on finisse par un truc d'attaque terroriste, et ben vous garderez vos réflexions.
Non, mais surtout que dans l'intitulé du G6, il y avait un truc comme ça, dans immigration, sécurité et terrorisme ou quelque chose dans ce genre.
Ah, j'ai pas l'intitulé, mais ce serait pas étonnant, quoi. En tout cas, voilà. Le but affiché de l'opération était donc de louer la police française et de montrer de quoi on est capable. Bon, alors pour cette démonstration, hein, c'était open bar. 61 pays étaient représentés, du monde entier. Voilà. Alors, au stade, hein, c'était un peu comme pendant un match de foot. Alors, il y a d'un côté le spectacle, bon, là, sauf que c'était pas des joueurs de foot de l'OL ou d'autres équipes qui s'affrontaient sur un terrain, mais des flics en tenue, en uniforme, casqués, bien énervés, tout ça, avec des fusils d'assaut à la main, des pompiers en tenue, tout ça, qui tiraient des victimes, des fausses victimes qui étaient allongées par terre et qui disaient « Ah, on m'a tiré dessus », tout ça. Voilà. Ça, c'était ce qui se passait. Bon, sauf qu'il y avait un autre spectacle qui s'est joué dans les coulisses et où un tout autre marché avait lieu. Et c'était celui des entreprises françaises avec leurs stands et leurs fournitures de sécurité. Et donc là, je vous laisse imaginer que tous les représentants des autres pays, alors il y en avait qui devaient regarder le spectacle, et comme ils n'ont pas dû venir seuls pour chaque pays, il y en avait d'autres qui étaient venus là pour écouter un peu tout ce que ces entreprises françaises allaient leur vendre comme conseils, comme fournitures, comme équipement, comme tout ça. Bon, et bien pour être sûr quand même que le badaud ne soit pas perdu, chaque exercice était accompagné d'un commentaire précisant la marque et l'utilité du matériel utilisé. Donc c'est-à-dire que quand même pour voir un peu l'ambiance du truc, c'est quand même on est quand même dans une espèce de rencontre officielle organisée par l'État. C'est pas une délégation qui va dans un pays pour vendre tout un tas de trucs. Non, le but était affiché où on était censé parler immigration et sécurité, mais quand même avec ça, on invite et je veux dire le commentateur fait clairement la promotion de marques de sécurité françaises. Voilà, donc c'était un peu l'espèce d'ambiance. Il y avait la partie un peu spectacle. Regardez de quoi on est capable face aux terroristes. On va nous dire, c'est déjà passé, c'est trop tard, merci les gars. Et voilà. Et en tout cas, en creux, c'était quand même bien l'idée de vendre du matos.
Et donc j'ai l'intitulé précis de ce G6 qui est aussi pour montrer la manière de réfléchir de ces gens-là. Enjeux migratoires, sécurité et lutte contre le terrorisme. Tout ça étant bien sûr comme une seule et même chose.
Voilà. Et on continue sur une thématique un peu business vert ou chouette.
Alors oui, alors non, en fait pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, le leader indépendantiste Oscar Temaru de Polynésie a déposé plainte pour crime contre l'humanité auprès de la Cour pénale internationale contre la France à cause des essais nucléaires que la France a fait en Polynésie pendant un sacré paquet de temps. Ça a été fait le 2 octobre dernier, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une semaine, mais bon, ça n'a pas non plus fait la une des médias. Moi, j'ai trouvé cette info qu'aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de ces essais nucléaires en Polynésie ? Les plus jeunes d'entre vous ne se rappellent peut-être de rien du tout. Moi, en tout cas, je me souviens des derniers qui ont eu lieu en 95. Mais figurez-vous que ça a quand même plutôt commencé en 66. C'est-à-dire qu'à l'époque, le nucléaire en France en était encore quand même assez balbutiement. Mais donc, le 2 juillet 1966, sur l'atoll de Mururoa en Polynésie, premier essai nucléaire de l'armée française. Donc il s'agit vraiment d'essais de nucléaire militaire. C'est de ça qu'on parle. De décès des bombes atomiques, en gros.
Mais est-ce que c'est... Je me trompe, ou c'est un peu ces images qu'on a un peu en tête où on voit des espèces de champignons exploser dans le Pacifique ?
Oui, c'est ça. Des champignons nucléaires dans le Pacifique, c'est ça. C'est bien exactement de ça qu'on parle. Du coup, ce premier essai de 1966 était pour le coup complètement secret. Il sera révélé que dans les années 90, au moment où on va quand même constater un paquet de retombées sur les zones où ça s'était passé, et constater que ces retombées sont quand même comparables à celles qui ont été mesurées à proximité de la centrale de Tchernobyl après l'accident. Voilà, c'est la population locale et les militaires qui étaient là à ce moment-là, tous eux aussi. Hein. Donc, en gros, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers de personnes, quelques militaires, alors ça, pour le coup, je sais pas combien, mais vraiment en petite minorité, et beaucoup de, ma foi, d'indigènes, parce que on est bien dans un contexte colonial et on parle bien de gens qu'on y va d'indigènes, quoi. Tous donc étaient maintenus dans une ignorance totale, aucune mesure, mais alors aucune à ce moment-là n'avait été prise pour les protéger. Et puis ces essais de 1966 ont continué, donc on parle d'essais nucléaires aériens, ont continué dans les mêmes conditions jusqu'en 1974. Après, ce qui change, c'est le mode opératoire. De 75 à 91, là on parle maintenant de 141 essais, des essais souterrains cette fois. Donc c'est soit dans les sous-sols, soit sous l'eau, au fond des lagons. Bon, alors on imagine bien que de toute façon, quand on fait péter une bombe nucléaire au fond des lagons, il y a effectivement des champignons nucléaires qui remontent, il y a de la vapeur, il y a le prix qui monte très très haut dans le ciel et puis qui retombe, ma foi, sur tout le monde. Donc encore une fois, hein, des militaires, des gens qui faisaient leur service militaire, parce qu'à l'époque c'était le service militaire, et puis les gens qui habitaient là, quoi. Pendant cette période des essais souterrains, un traité international a été mis en place pour faire du Pacifique Sud une zone dénucléarisée. Il y a plein de pays qui ont signé. Ça, c'était en 1985. Mais la France, par contre, elle a refusé de signer ce papier. Et c'est aussi en 1985 que, pour le coup, Greenpeace avait... Voilà. T'es en train de toucher des boutons, ça me fait des trucs bizarres dans les oreilles. C'est aussi cette même année 1985 que Greenpeace avait affrété un bateau pour aller protester contre ces essais nucléaires qui à ce moment-là n'étaient plus du tout secrets, enfin ne serait-ce que parce que de toute façon il y a des champignons nucléaires gigantesques partout, donc le gouvernement plutôt préférait communiquer dessus. Donc avait affrété ce bateau qui s'appelait le Rainbow Warrior, qui devait partir de Nouvelle-Zélande pour aller à Mururoa, pour se mettre sur la zone des essais, pour, en espérant que du coup les essais ne soient pas faits. Mais ce bateau a été coulé, une bombe a été posée sur la coque par deux agents français, hommes grenouilles un peu, vous voyez, qui sont vraiment un
truc style film d'espionnage, quoi.
C'est ça, complètement. Qui sont allés poser cette bombe sur la coque du bateau, la bombe a explosé, un photographe qui était sur le bateau a été tué, le bateau a été coulé. On parle là de gens qui ont été envoyés par un ministre socialiste et personnalité locale par ailleurs, puisque c'était Charles Hernu qui était maire de Villeurbanne juste avant et juste après avoir été ministre. Et tout ça avec l'approbation explicite du président de l'époque, François Mitterrand. Mais finalement, en 92, Mitterrand trouve que se dit, tiens, mais au fait, je suis de gauche. Non, en fait, il n'a pas dû se dire ça. On ne sait pas s'il se l'est dit quand même des fois dans sa vie. Mais du coup, à ce moment-là, en tout cas, il n'a plus vraiment besoin d'atomiser des indigènes et ce qui était à l'époque un territoire d'outre-mer. Et du coup, il signe pas du tout le traité pour dénucléariser le Sud-Pacifique, hein, parce que peut-être qu'on aura besoin d'y revenir. Il signe juste un moratoire sur les essais, en disant que ce moratoire pourra être prolongé, mais c'est pas non plus obligatoire, chaque année. Et de fait, il est prolongé chaque année jusqu'en 1995. À ce moment-là, c'est plus Mitterrand qui est président, c'est Chirac. Et Chirac, et ben, ma foi, il se dit que, allez hop, une dernière fois, on va faire quelques petits feux d'artifice dans les colonies. Alors à ce moment-là, c'est effectivement très impopulaire. Il y a un boycott des produits français qui est organisé à une échelle mondiale. Moi, je me souviens par exemple d'un morceau de musique. C'était un groupe punk allemand et leur morceau s'appelait Fuck Jacques Chirac. C'était vraiment un morceau sur les essais nucléaires dans le Pacifique. Mais bon, Chirac, lui, il s'en fout, il tient son jouet, et puis bon, président après président, hein, Mitterrand avait quand même bien largement prêté la main, largement co-organisé le génocide rwandais. Chirac, il fallait quand même qu'il fasse quelque chose un peu pour qu'on se souvienne de lui dans l'histoire avec un grand H. Et donc, des essais nucléaires, c'était toujours un truc à tenter.
En tout cas, ça laisse des traces...
Ça laisse des traces, et donc ça en laisse encore maintenant. Grâce à Oscar Temaru, Chirac va peut-être accéder à cette célébrité de président français criminel contre l'humanité. Et donc voilà, 95-96, un dernier cycle de 6 bombes dans l'atoll de Mururoa. Et donc aujourd'hui, 22 ans après, ce Oscar Temaru, dont on avait déjà entendu le nom à l'époque, en 95-96, c'était déjà lui qui était à la tête un peu des protestations locales. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des protestations mondiales, hein. Mais les protestations en Polynésie, c'était un peu lui qui était en tête d'affiche, quoi. Et donc lui était un leader indépendantiste, et il nous dit aujourd'hui, c'est avec un grand sentiment de devoir et de détermination que le 2 octobre nous avons déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Cette poursuite en justice a pour objectif de demander des comptes à tous les présidents français encore vivants sur les essais nucléaires depuis le début, les essais nucléaires contre notre pays. Pour nous, les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d'une colonisation. Contrairement au discours français, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais, ils nous ont été imposés, avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions. Le dirigeant indépendantiste a précisé qu'il avait quand même essayé, depuis 2013, d'instaurer un dialogue responsable avec la puissance administrative sous la supervision des Nations Unies pour avoir des dédommagements. Mais les appels à venir à la table de discussion faits à la France ont été ignorés et méprisés. Voilà, donc on parle bien de 193 essais nucléaires de 1966 à 1996.
Yeah. continue avec d'autres joyeusetés et on va parler réforme possible éventuellement des retraites. En tout cas, le gouvernement le souhaite. Et avec la création d'un âge pivot. Alors, en gros, pour faire très 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 vite, dans le système actuel et pour le régime général, l'âge minimum de départ à la retraite est de 62 ans. Avant ça, on appelle ça la pré-retraite. Dans sa grande réforme souhaitée par le gouvernement, il y aura entre autres la fin du système de trimestre. Hein, vous savez, actuellement, on cotise. Enfin, on cotise. Il y en a qui cotisent pas grand-chose dans le studio, mais la plupart des gens cotisent donc par trimestre travaillé. Donc, on valide un trimestre, puis deux trimestres, puis trois trimestres. Bref. Voilà, donc ça, Macron, il a dit, c'est nul, ça appartient au 18e siècle, c'est vraiment des vieux trucs. Nous, on veut un système à points. Bon, voilà. On sait pas trop, hein, mais en général, c'est le truc de vouloir moderniser quelque chose. Hein, vous connaissez l'histoire, on va se faire niquer quelque part. Bien sûr, il souhaite la fin des régimes spéciaux pour aligner tout le monde sur le pire, hein, c'est-à-dire le régime général, et non pas pour aller vers le mieux, vous en serez douté. Et dans tout ce merdier, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un paquet de fois dessus, il y a la création d'un âge pivot de départ à la retraite. Alors, c'est au passage hein, quand même une revendication de longue date, du MEDEF. Alors, ce petit pivot a pour but principal hein, pour le gouvernement de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Non, surtout, mais alors surtout pas, on ne fait pas ça, on ne touche pas ils avaient promis qu'ils ne toucheraient pas à l'âge légal de départ à la retraite.
Âge légal qui est de
62 ans. Ah, je l'ai dit au début, tu n'as pas écouté. En gros, il sera donc toujours possible, si jamais la réforme passe, ce dont je doute fort, de partir à 62 ans. Bien sûr, avec une décote, du coup. Pour avoir un temps plein, bah, il faudra partir à 63 ans. C'est le pivot. C'est 62. Ah.
Mais alors, le pivot, c'est 62 ou c'est 63?
Bah, c'est cet âge pivot. Donc on a un peu du mal à comprendre où est-ce qu'il pivote. Et bon, si jamais, le salarié ou la salariée n'est pas mort ou morte après ses 63 ans d'un travail terrassant, et ben il ou elle pourra faire du rab et partir après 63 ans. Et bien sûr, bah là quand même, c'est pas des salauds, et ben il y aura une surcote. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, et ça c'est que un peu une première partie, l'exécutif a pour but de dézinguer le système des retraites à grands coups de je sais pas quoi. Enfin en tout cas de sales réformes. Même les plus combatifs et le syndicat le plus revendicatif qu'on connaisse, c'est la CFDT qui est montée au créneau. Et là, je cite, je le dis très clairement, tous ceux qui ont dans la tête un élément paramétrique joué sur l'âge pour cette réforme auront l'opposition de la CFDT. C'est clair et net, a prévenu Laurent Berger.
Ah bah là, Macron, il a fait sa mère.
Là, je pense, déjà bon, c'est-à-dire qu'en ce moment, il a un peu du mal à former un gouvernement.
Information numéro 1, il n'y a pas de remaniement.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont en train de dire « Ah, qui est-ce qui voudrait faire partie du gouvernement ?» Tout le monde fait à peu près, vous savez, vous vous souvenez à l'école, là, quand on dit « Ah, qui veut passer au tableau ?» Tout le monde fait « Oula, ça va pas être moi sur ce coup-ci. » Tout le monde regarde un peu sa table, ses pieds, ses mains, ses oreilles. Voilà, donc on en est là actuellement. Bon, voilà, on espère que tout ça ne passera pas. Et ce Canut Info touche à sa fin, mais avec une demi-heure d'avance. Mais on va finir pour une fois par une bonne nouvelle, non?
Oui, tout à fait. Alors attends, il y a un truc dégueulasse qui s'est collé à ma feuille, je sais pas ce que c'est, mais...
Non, on avait dit une bonne nouvelle.
Mais c'est malgré tout une bonne nouvelle. Figurez-vous que le ministre de la Transition écologique...
Pardon, Nicolas Hulot, non.
Non, François de Rugy lui-même...
Gérard Collomb est parti aussi, attends, il est pas parti lui.
Non, François de Rugy est encore ministre pour l'instant, en tout cas au moins jusqu'au remaniement. Mais alors, si ça se trouve, il va pas le rester longtemps, parce que là, il a quand même confirmé que la centrale nucléaire de Fessenheim fermera avant 2022. Même pas en 2022, mais avant 2022. Et ça, attention, écoutez bien. C'est vraiment quand même épatant. Hein. Même si l'EPR de Flamanville n'a pas été mis en service.
Parce que c'est quand même pas impossible qu'il ne soit jamais mis en service. En tout cas, on l'espère.
Mais bon, pour les autres centrales vieillissantes, alors pour le coup, on a joué entre plusieurs scénarios. On va y revenir un peu, vous allez voir, c'est des scénarios... Mais en tout cas, c'est quand même un peu dingue, parce que tant qu'il y avait Nicolas Hulot qui, a priori, était quand même un peu convaincu de la cause écologiste, tant que lui était là... Il n'a servi que à dire en fait on fermera pas les centrales nucléaires, en fait on interdira pas le glyphosate, en fait on fera rien, de rien, de rien qui pourra aider. Nicolas Hulot se barre, il met à la place quelqu'un dont tout le monde se dit oui, oui, oui. Alors lui au moins il en a vraiment rien à foutre de l'écologie. Et là paf, pour le coup, on dirait qu'il y a vraiment une sorte d'effet où tant que le gouvernement pouvait montrer Hulot le mettre devant tout le monde. Eh ben, ils se dédouanaient complètement de faire quoi que ce soit. Mais maintenant qu'ils sont François de Rugy, c'est sûr que ça les dédouane plus de rien du tout. Parce que François de Rugy, c'est quand même vraiment une sorte de marionnette, girouette, le bonhomme que ça reste, t'as plus de couture tellement il l'a retourné. Et ben, maintenant qu'ils l'ont, on dirait qu'ils se sentent un petit peu obligés de faire un ou deux trucs, quoi. Et donc, dans les ou deux trucs, il y a ça. Il y a fermer Fessenheim avant 2022. Mais attention, quand on dit avant 2022, ça veut dire que cette fois-ci, contrairement à ce que faisaient tous les gouvernements précédents, une fois élu, hein, parce que les gouvernements précédents, bon, à l'époque de François Hollande, par exemple, il avait fait des tas de promesses de campagne. Mais une fois qu'il avait été en place, il en était plus question. Là, en l'occurrence, ils sont en place, et avant 2022, c'est avant la fin du quinquennat. Ça veut dire pendant que Macron est encore à l'Elysée.
Mais dis-moi, t'aurais pas répondu oui à l'appel de faire partie du gouvernement? Tu t'es transformé en porte-parole, dis-moi.
Moi, j'y vais, moi. Non, attends. Non, je suis désolé.
Tout ça, c'est pour gagner des trimestres à ta retraite.
Ah, non, pour l'instant, j'ai pas encore eu de coup de fil. Mais alors voilà. Et donc, tout ça, en plus... C'est pas conditionné à la mise en service de l'EPR de Flamanville, alors qu'on se souvient que EDF avait dit « Oh là là, fermez Fessenheim, nous, non, on aime bien quand même qu'elle soit ouverte, c'est vrai qu'elle avait été construite pour 30 ans, ou peut-être 40, et que là on va tout droit vers les 50, ou vers plus, mais quand même, et que pendant ce temps les murs se lézardent, tout tombe en morceaux, mais quand même, vraiment, on aime bien qu'elle soit ouverte, ou alors... Si vraiment il faut qu'on la ferme, d'accord, on n'aurait qu'à dire, et ça c'était à l'époque de François Hollande, on n'aurait qu'à dire qu'on la fermera dès qu'on aura mis en service l'EPR de Flamanville. Mais alors là, l'EPR de Flamanville, on en a parlé la semaine dernière déjà, l'EPR de Flamanville, on se souvient qu'il y a une histoire enfin, qu'il y a un certain nombre d'histoires qui se sont suivies les unes les autres, que la toute dernière histoire c'est une histoire de soudure toute merdique qui ont été faites mais qu'il va falloir refaire, que c'est des soudures qui sont longues et compliquées à refaire. Que du coup, cette EPR qui, quand même, le chantier a démarré en 2007 pour se terminer en 2011. En 2012, pardon. Donc ça devait durer 5 ans. En fait, ça ne sera certainement pas terminé avant 2020. Donc on en est à 8 ans de retard. Donc on a plus que doublé et on s'achemine tout droit vers le triplé le temps que dure le chantier. Ça devait coûter 3 milliards d'euros. Bon, bah là, on en est à 10,9 milliards. Ça augmente, mais et donc voilà, là quand même, jusqu'à il y a 2 ou 3 mois, 4 peut-être, c'était sûr, l'EPR allait démarrer fin 2018, mais bon, finalement non, ce sera 2019, allez hop, 2020 pour l'instant, et donc en attendant la prochaine merdouille qui fera que ce sera 2021, 2025, 2034. En tout cas, même François de Rugy a été obligé de dire... que ni l'EDF ni l'autorité de sûreté nucléaire ne sont capables de donner une date pour la mise en service de la centrale de Flamanville. Et François Drugy toujours a parlé de quelques problèmes autour du développement de l'EPR. Donc voilà. Et comme finalement il n'y a pas de date, comme ça sera pas 2018, pas 2019, normalement 2020, mais en fait tout le monde s'attend au prochain problème. Et ben et que ça pourrait durer jusqu'à après 2022. François Drugy a dit non mais la Flamanville, vraiment le problème c'est que la prochaine personne qui donne un coup de pied dans un mur, la centrale se casse la gueule et la moitié de la France est transformée en désert quoi. Alors tant pis, on va la fermer. Bon, du coup le gouvernement a prévu un plan.
Juste la centrale, hein, pas eux en entier. Ils vont la fermer, t'as dit, ils vont la fermer. Non, c'est
ils vont
cause,
pas ouais. la fermer une bonne fois pour toutes. Non, ils vont fermer la centrale. Et donc le gouvernement a prévu tout un plan. Bon, parce que bien sûr, les gens qui bossent à Fessenheim, ils adorent bosser à Fessenheim. Comme les agriculteurs qui mettent du glyphosate dans les champs, comme tous les gens qui font des tonnes de métiers, qui les tuent, qui tuent leur famille, qui tuent leurs proches, qui tuent tous les gens qui habitent à proximité de là où ils font leur métier, ils adorent. Ils sont prêts à aller faire des manifs, à aller cramer des cochons devant les préfectures pour être sûr qu'on leur laisse bien leur job où ils se tuent eux-mêmes et leur famille et leurs amis. Et donc là, le gouvernement a fait waouh, nous, alors franchement, les mouvements sociaux, on en a déjà assez pour tout ce qu'on fait sur la casse du droit du travail, des retraites, des services publics, de nana. Là, au moins, là-dessus, les travailleurs du nucléaire, on va essayer de les garder dans notre poche. Et donc, voilà, blabla, plan de reconversion, zone d'activité à côté de Fessenheim, 10 millions d'euros, bim, pour accompagner le développement de la zone d'activité, 15 000 euros pour chaque emploi qui sera créé, pour les employeurs, bien sûr. EDF qui a annoncé la création sur le site nucléaire d'un technocentre de démantèlement des grosses pièces métalliques des centrales. Ah oui, parce que du coup, ils se sont aussi dit que, bon, bah, puisqu'ils vont être obligés de la fermer, et que donc, on se rappelle que jusqu'à maintenant, on ne sait pas très bien comment démonter vraiment une centrale nucléaire. On sait l'arrêter, mais on ne sait pas trop la démonter sans tuer tout le monde. On progresse très lentement dans cette technologie. Et donc là, l'idée, c'est de créer un centre de démantèlement des grosses pièces métalliques des centrales. 200 emplois là-dedans, 100 millions d'euros d'investissement. Et tout ça en espérant que... Alors attention, ça c'est Sébastien Lecornu qui dit « Il y aura à l'avenir des besoins dans le démantèlement des centrales nucléaires. C'est une opportunité à saisir avec les Allemands. » Bah oui, parce que les Allemands, eux, ils vont réellement arrêter toutes leurs centrales. La preuve que c'est possible. Mais les Français ne vont pas du tout dire « Oh oui, nous aussi on va arrêter toutes nos centrales. » Non, non. Ils vont dire « Ok, envoyez-nous les pièces pourries et filez-nous du pognon pour qu'on les traite. » Bon, alors voilà. Donc Fessenheim, a priori, on sait où on en est. Mais alors par contre, les autres... Parce que du coup, Fessenheim, ça a été la première des centrales nucléaires qui est ouverte en France, mais c'est un moment où il y en a eu plein qui ont ouvert les unes après les autres. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de toutes les autres qui sont à peine moins vieilles, finalement? Eh bien, ça dépendra de ce document qui s'appelle le PPE, la Programmation pluriannuelle de l'énergie, et qui est un document qui est censé fixer la politique énergétique de la France jusqu'en 2028 et qui va être dévoilé par le gouvernement fin octobre. Fin octobre, on saura ce qu'on fait d'ici à 2028 avec les centrales nucléaires. Mais pour se décider, voilà, il y a un certain nombre de scénarios qui ont été réfléchis vraiment. 5 scénarios différents. Qui ont été faits par le réseau RTE, qui est une filiale d'EDF, et qui ont été présentés à l'époque à Nicolas Hulot au début de l'année. Nicolas Hulot avait retenu 2 de ces scénarios qui envisagent la fermeture de 9 à 16 réacteurs d'ici 2035. Bien sûr, on se rappelle quand Nicolas Hulot était venu dire devant les télés « Ouais, le gouvernement précédent avait dit qu'on essaierait de fermer 50% du parc nucléaire d'ici 2025, mais en vrai, on ne le fera pas, on essaiera de le faire d'ici 2035. » Bon, là, on en reste là. Voilà. Alors, RTE estime qu'il est possible de fermer 6 réacteurs nucléaires entre 2024 et 2028. Il s'agit des réacteurs les plus vieux. Le problème, c'est que EDF n'envisage pas de fermer de réacteurs avant 2029. Donc, RTE, c'est une filière d'EDF, mais c'est une filière indépendante. Alors, eux, ils peuvent dire un truc et EDF peut dire le contraire. Donc, d'un côté, eux, ils envisagent des scénarios où ça serait vraiment possible d'en fermer... À partir de 2029, RTE, ils disent non, en fait, il faudrait quand même, et ça serait possible, à partir de 2024. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On ne sait pas, mais Une source anonyme interne à EDF, citée par Reuters, nous dit « Je doute qu'il y ait d'autres décisions de fermeture de centrale à part Fessenheim avant la fin du quinquennat, sauf si l'autorité de sûreté nucléaire l'impose. Reste à savoir si la PPE inclura la liste des réacteurs à fermer. » Mais, alors attendez, parce que je cherche ma dernière info. Ah oui, voilà, elle est là. Et donc, d'ici 2035, 26 réacteurs nucléaires sur 56, donc plus de la moitié, sans compter ceux de Fessenheim, vont atteindre les 50 ans d'utilisation depuis leur date de mise en service. Alors que les centrales nucléaires ont été conçues pour une durée de 30 ans, prolongeable éventuellement jusqu'à 40, mais du coup, EDF, qui ne veut pas du tout les fermer, prévoit des travaux complètement dingues d'ici 2025 pour prolonger leur durée de vie à 60 ans. Donc doubler la durée de vie qui était prévue au départ.
Comme ça, d'un claquement de doigts, quasi.
Claquement de doigts, mais alors tu vois, un claquement de doigts en or. Hein, parce que le coût de ces travaux est estimé par EDF à 50 milliards d'euros. attends, parce que ça c'est EDF qui estime. De la même manière qu'ils avaient estimé, on se rappelle, que pour construire Super Phoenix, ça coûterait 3 milliards d'euros. Mais là, quand même, la Cour des comptes, qui ne peut pas se laisser avoir à chaque coup, dit en fait, ce ne sera pas 50 milliards d'euros, ce sera 100 milliards d'euros. Ça, c'est le coup pour qu'on garde pour l'excellence nucléaire française. Chers amis, merci.
Waouh.
On a terminé ?
On a terminé.
Eh bien, dites donc, c'est il est 19h41, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, celle où les infos du mercredi ne durent pas toujours jusqu'à
20h. Et bien, c'est l'heure de laisser l'antenne aux bandes continues pendant 20 minutes. Et ensuite, vous retrouverez Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et ce sera à 20h. En attendant, merci de nous avoir écoutés.
Et ciao.
Ciao.